au fil des pages. Des thèmes, des livres, des découvertes. Une émission proposée par Pérouse et Saténic sur Hype FM. Je suis le capitaine Azil Kemal et voici le sergent Kara Shemsi. Vous vous demandez la raison de votre présence. Parmi vous se cachent deux membres actifs du Tashnak Tutsun. Nous vous interrogerons afin de les identifier. Comme vous êtes nombreux, nous vous interrogerons par groupe de 30. Inutile de chercher à vous en aller, des soldats gardent des issues. Les 30 premiers, dirigez-vous vers la sortie.
Bonjour Pérouse.
Bonjour.
Bonjour à tous. Un interrogatoire organisé par le capitaine Azil Kemal. On est le 24 avril 1915 dans le vilayet d'Erzurum. Il y a de quoi s'inquiéter.
Quelques minutes après, nous arrivons au bord du fleuve où une embarcation de bois, plate comme une péniche, est amarrée. Les villageois s'y engagent à la queue-leu-leu et mettent le pied sur le pont, indifférent à la grue fixée à l'avant et dont l'armature renvoie son ombre sur le plancher. Quand les 30 Arméniens ont eu reformé leur groupe, le sergent leur indique une ouverture sur le sol, sorte d'écoutille, et leur ordonne de descendre dans la cale. L'un s'étonne. Pourquoi ne pas nous interroger au village ? Descends, fais ce qu'on te dit sans discuter, lui répond durement le sergent. Quand le dernier Arménien a disparu dans les entrailles de l'embarcation, tout s'accélère. Le sergent relie le crochet qui descend du filin de la grue à un anneau que personne n'a remarqué sur le sol, tandis que les autres gendarmes ôtent un grand panneau de bois dans le plancher, autour de l'écoutille. J'observe la scène de l'arrière du bateau. Les 30 Arméniens s'agitent, poussent des exclamations, puis comprennent ce qui leur arrive. En descendant, ils sont entrés d'eux-mêmes dans un grand filet métallique. Sur mon ordre, la grue remonte le filin, les mailles se referment sur eux, les tassant, les écrasant les uns contre les autres. Une boule compacte, qui a la forme d'une ampoule, s'élève dans un crissement acide de poulie.
Oui, une grue fixée à l'avant dont l'armature renvoie son ombre sur le plancher, une ombre déjà tragique, un anneau que personne n'a remarqué, mais petit à petit, les personnes prises au piège comprennent ce qui leur arrive et peut-être que vous avez aussi compris les intentions du capitaine Kemal.
Le filet s'est maintenant immobilisé à 2 mètres du sol. Le grutier attend mon ordre. Je lève l'index et je dessine un petit cercle imaginaire. Alors la flèche de la grue tourne lentement, lentement, dirigeant le filet des Arméniens pris au piège au-dessus des eaux tourbillonnantes du Karasu. Les cris, les supplications redoublent. Tous ont compris qu'ils vont mourir.
C'est un début très fort en émotion, un début qui provoque d'autant plus la révolte que cet épisode est raconté avec une froide cruauté par le personnage Azil Kemal. Autant le sergent Kara est un sanguin, un excité, il va jusqu'à insulter les victimes qu'il noie, autant au contraire le capitaine Kemal est froid et méthodique. Alors il est temps d'expliquer un peu ce qui se passe. L'ouvrage dont nous venons de lire des extraits, donc c'est ce sont des extraits du début, s'intitule « Moi, Azil Kemal, j'ai tué des Arméniens » et cet ouvrage vient tout juste de paraître aux éditions Parenthèses. Il est signé Jean-Claude Belfior. Le début de ce récit est saisissant parce ce récit s'ouvre sur un drame, sur ce drame. Nous n'avons pas révélé tous les aspects de ce drame. Mais si le début est saisissant, la suite est tout aussi poignante et une fois qu'on est entré dans le livre, on ne le lâche plus, on le lit d'une traite. Dans cet ouvrage, l'écrivain Jean-Claude Belfior a voulu aborder le génocide des Arméniens d'un point de vue assez inattendu, le point de vue du bourreau. Alors, il s'est tout d'abord appuyé sur une solide documentation historique, une documentation tellement solide que cela lui permet de reconstituer fidèlement les événements de 1915 en y plongeant ses personnages, en y plongeant son lecteur aussi, parce qu'on se sent complètement immergé. On ne lit pas cette histoire, on la vit. Toutefois, pour un lecteur qui ne connaît pas le détail des atrocités commises contre les Arméniens en 1915, il y a des faits qui sont décrits dans ce texte et qui peuvent paraître inouïs, exagérés et qui dépassent l'entendement. Et pourtant, pour qui connaît l'histoire, tout est vrai, tout est attesté par des sources historiques. En fait, le réalisme est complet. Et on a complètement l'impression de lire un document de cette époque. Ensuite, Jean-Claude Belfior a tenté de reconstituer ce que pouvait être la psychologie, l'état d'esprit d'un soldat turc qui reçoit l'ordre de déporter et de tuer. Donc, à côté de, on va dire, de l'enquête historique, il y a cette sorte d'enquête psychologique. Donc, il essaye de faire si tant est qu'on puisse se mettre à la place d'un assassin. Et donc, l'auteur essaye d'explorer la psychologie de ce soldat turc qu'il appelle Azil Kemal, mais c'est plus généralement l'exploration de la subjectivité d'un bourreau, quelle que soit sa nationalité. D'ailleurs, l'une des défenses d'Azil Kemal est celle qu'on retrouve chez d'autres bourreaux qui ont été très étudiés, notamment les nazis. Donc, ils essaient de minimiser leurs crimes, de les justifier, en particulier en ignorant ou en ne s'attardant pas à la souffrance qu'ils provoquent, c'est-à-dire en bloquant, en se gardant de toute empathie qui est pourtant naturelle à l'espèce humaine et en se forçant à s'en tenir à une approche purement technique des problèmes.
J'estimais que la méthode que nous employions, quoique efficace, était laborieuse et conférait au temps qui s'écoulait une monotonie insupportable. Le sergent avait raison, ça n'allait pas assez vite. Alors, vers le milieu de la matinée, j'ai demandé au grutier si son engin supporterait un poids plus important. Il m'a répondu que la machine pourrait déplacer 300 kilos supplémentaires sans problème, peut-être même 400, et que de toute façon, le filet était assez large pour contenir davantage de corps et que, jusqu'à présent, on avait gaspillé de la place. J'ai donc donné l'ordre de former des groupes de 35 personnes. C'était peu, mais c'était toujours ça de gagner.
Voilà ça de gagner. 300 kilos, voilà, il n'y a que des kilos, oui. Hein, ce ne sont pas des êtres humains. Oui. Voilà. Combien de kilos peut-on faire passer en une fois pour les noyer? Donc voilà, pour Kemal, il n'y a là qu'un problème d'arithmétique. Combien de morts, en combien de temps? À part cela, il ne ressent rien ou ne veut rien ressentir. Alors, on pense à la lecture à certaines œuvres romanesques ou théâtrales ou cinématographiques, oui, oui, qui se sont aussi intéressées à la psychologie du bourreau, parce que l'inhumanité de ce genre d'homme nous interroge. Comment un homme peut-il devenir inhumain? Est-ce que ce sont des monstres avant ou est-ce que ce sont les circonstances qui ont fait des monstres? C'est tout le débat sur la banalité ou pas du mal. On pense à « La mort est mon métier » de, oui, Robert Merle, oui. On peut penser aux « Bienveillantes » de Jonathan Little. On peut penser aussi à la pièce « Le vicaire » de Rolf Hochhuth et à son adaptation cinématographique par Costa Gavras sous le titre « Amen », c'est-à-dire que là, on peut penser aux médecins nazis. Mais alors, ces explorations littéraires ou cinématographiques de ce genre de psychisme ordinaire ou détraqué, selon qu'on admet ou pas la théorie de la banalité du mal, ces explorations ne sont pas pure fiction. La plupart du temps, les personnages des œuvres citées sont inspirés de personnages réels, de nazis réels. D'ailleurs, Eichmann répondait tout à fait à ce genre de critères. C'est un homme ordinaire, sérieux, méticuleux, un bon technicien du génocide. Le personnage d'Asil Kemal fait pan. Il a ce profil-là, du moins au début du récit. Il a ce profil-là. C'est un homme ordinaire, tendre époux, tendre père, soldat obéissant. Et donc, comme les autres bourreaux, il s'invente des excuses. Je n'ai pas le choix, je dois obéir aux ordres, je risque la potence. Ou alors, une phrase, je la cite presque littéralement, « Ce n'est pas parce qu'on tue qu'on est un tueur au fond de soi. » Donc voilà, dans la psychologie de son personnage, aussi bien que dans le tableau historique, Jean-Claude Belfiore parvient donc au plus grand réalisme. Non pas qu'on s'identifie au personnage d'Asil Kemal, mais en tout cas on y croit, il est crédible. Sa personnalité n'est pas schématique, elle est même pleine de contradictions. C'est ainsi d'ailleurs, à cause d'une contradiction, que le récit de Jean-Claude Belfiore prend rapidement une autre tournure. Le soldat obéissant aux ordres de déportation et de meurtre est pris dans la plus grande contradiction qui puisse lui arriver, sa femme est arménienne. Donc à partir de là, il est très intéressant de voir comment l'auteur pousse son personnage dans ses derniers retranchements, de voir comment Kemal va gérer cette contradiction et comment il va évoluer. Voilà pour cette courte présentation, on n'en dit pas plus sur le récit, on le laisse découvrir et on ne veut pas gêner la découverte. Nous allons rejoindre maintenant par téléphone l'auteur, l'écrivain Jean-Claude Belfiore, pour lui poser quelques questions de nature à nous éclairer. Bonjour Jean-Claude Belfiore.
Bonjour.
Voilà, donc on s'entend, voilà. Vous êtes écrivain, vous avez déjà écrit, publié de nombreux ouvrages, mais on vous connaît surtout pour vos ouvrages sur l'Antiquité. Grecque ou romaine. C'est la première fois que vous écrivez sur le génocide arménien. Pourquoi en êtes-vous venu à cette thématique ?
Eh bien, ce livre est né d'une prise de conscience doublée d'un sentiment d'injustice. Je suis né en France, j'y ai fait mes études, je porte un nom italien, j'écris sur l'Antiquité romaine, et donc pendant longtemps, mon arménité a été occultée. Et il y a peu, l'Arménien, on va dire, qui sommeillait en moi m'a secoué. Et je me suis réveillé avec un sentiment de culpabilité de ne pas me sentir arménien.
Oui, ça c'est la preuve que vous l'êtes vraiment.
Oui, et donc avec ce livre, j'ai voulu réparer une injustice. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Je le devais, disons, à ma mère, à mes grands-parents, aux Arméniens et aussi à moi-même.
Oui.
Ça m'a fait beaucoup de bien de me plonger là-dedans.
Mais donc, certains personnages de votre récit ont existé, mais pas là où vous les situez.
Oui, la plupart ont existé. Bon, et certains n'ont pas existé.
Oui.
Ils relèvent du domaine de la fiction.
Mm-hmm.
Vous pensez à quel personnage?
À Kevork Dingyan, qui est donc des personnages...
Oui, alors lui, Kevork Dingyan, c'est le nom de mon grand-père, en fait.
Oui.
Et donc, c'était un petit peu lui rendre hommage de le placer dans cet ouvrage, puisqu'il a réussi à sauver toute sa famille, ce qui n'est pas un mince exploit quand on sait ce qui est arrivé aux Arméniens.
Oui, mais bon, il n'est pas le jeune Tashnak Tsagan qu'on voit dans le roman, qu'on voit dans votre texte.
Non, mais j'imagine que ce personnage a pu exister.
Oui, tout à fait, c'est plausible. Bon, vous dites que la réparation de cette injustice et la réappropriation de vos racines arméniennes vous ont fait du bien.
Oui.
Mais pourtant, c'est pas facile d'aborder la question du génocide sous l'angle d'un bourreau. Pourquoi est-ce que vous avez voulu aborder la question sous cet angle-là? Et est-ce que c'était pas un peu destructeur quand même pour vous de vous plonger dans toutes ces atrocités?
Eh bien, mon premier réflexe, effectivement, a été de raconter l'histoire à partir d'un enfant arménien.
Oui.
Mais, bon, j'ai lu beaucoup de témoignages et la plupart des témoignages qui existent sur cette période sont rapportés par un narrateur arménien.
Oui.
Personnellement, cela me posait deux problèmes que je qualifierais presque de techniques. Parce que si tragique qu'a été le sort du narrateur, on peut dire que puisqu'il raconte l'histoire, il s'en est tiré et son sort reste enviable si on le compare à l'Arménien qui lui est mort au cours des déportations.
Oui.
Et dans un ouvrage historique, même dans un roman, on ne peut pas faire parler un mort.
Mmh.
Il y avait un deuxième problème qui se posait, c'est que l'Arménien qui raconte les massacres, se heurte à un problème, on va dire, fréquemment de crédibilité, puisqu'on pense qu'il ne fait que défendre sa propre cause.
Oui.
Donc c'est pour ça que j'ai choisi le point de vue du bourreau, pour deux raisons, donc celle-ci. Le lecteur assiste en direct aux forfaitures, et d'autre part, comme il n'est pas dans l'intérêt d'un Turc, a fortiori d'un officier, d'un capitaine, de mentir en affirmant que son pays commet ce que plus tard, disons, on va appeler le génocide, et bien son propos reste authentique, donc historique.
D'accord, donc même si il est difficile de s'identifier à ce personnage, c'était plus intéressant sur le plan historique, littéraire. Et c'est vrai que ça permet au lecteur d'être complètement plongé dans tout cela, alors que...
Oui, ouais, il y a une autre raison aussi, on a tendance à... quand on ne connaît pas beaucoup la question, d'être un peu manichéen.
Oui.
Tous les Turcs sont mauvais, tous les Arméniens sont mauvais, ben, selon le point de vue, évidemment. Donc, j'ai voulu quand même faire la part des choses. Ce ne sont pas tous les Turcs, mais c'était le gouvernement d'une certaine période qui était à bannir, on va dire.
Oui, oui, il a une personnalité complexe, Asil Kemal, et puis il évolue dans ses positions.
Oui.
Oui. Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-Claude Belfiore. J'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir plus longuement un autre jour. Merci pour ce livre et au revoir. Je rappelle les coordonnées de ce livre. Moi, Asil Kemal, j'ai tué des Arméniens, donc de Jean-Claude Belfiore aux éditions Parenthèse. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Get your finger.